Microcité. Une émission de l'école de journalisme de Grenoble. 16h30-17h sur Campus Grenoble 90.8.
Margot Siffert.
Bonjour à toutes et à tous, il est 16h30, bienvenue dans Microcité, votre émission hebdomadaire d'actualité et de débat. Au sommaire, cette semaine, le Téléthon, la 33e édition a lieu aujourd'hui et demain. Alors comment s'organise un tel événement? Où va l'argent récolté? Quelles sont les maladies concernées? Toutes les réponses à ces questions dans une dizaine de minutes avec Julia Beaufils et son invité en studio. À suivre également en fin d'émission notre reportage sur la pré-mobilisation contre la réforme des retraites à Grenoble. Pourquoi les manifestants sont-ils restés au parc Paul Mistral à la fin du cortège? Qu'ont-ils fait? Claire Guédon nous en dira plus. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8. On est ensemble jusqu'à 17h, Microcité épisode 8, c'est parti! Tout de suite, c'est le journal avec Paul Tillier. Bonjour Paul.
Bonjour Margot. Édouard Philippe présentera le projet de la réforme des retraites mercredi prochain. Ce sera au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation décidée ce matin par les syndicats. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la première manifestation d'hier. La grève qui se poursuit encore aujourd'hui, toujours 90% des trains supprimés. Microcité sera en direct de la gare. Ce soir, c'est le coup d'envoi du Téléthon, 33e édition. L'objectif toujours le même, récolter des fonds et financer la recherche contre les maladies génétiques. Et à l'heure de l'urgence climatique, comment les Grenoblois changent-ils leurs habitudes? Réponse en fin de journal. Le Premier ministre Édouard Philippe a lâché du lest il y a quelques minutes sur la réforme des retraites. Elle ne concernera que les nouveaux entrants à la RATP et à la SNCF. Plus de détails dans le plan qui sera dévoilé mercredi midi. Du côté de l'intersyndicale CGT, Force Ouvrière, Solidaire et FSU, un nouvel appel à la grève a été lancé. Il est prévu mardi 10 décembre. Cette annonce intervient au lendemain de la journée de mobilisation massive hier dans toute la France. 800 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 1,5 million selon les syndicats. À Grenoble, ils ont appelé plusieurs secteurs professionnels à cesser le travail et à manifester. La marche est partie de la gare hier matin à 10h. Zoé Ruffy y était.
Tous ensemble, il l'était, malgré le froid, les 12 500 manifestants qu'a compté la préfecture.
Énormément de monde, très surpris justement par cette mobilisation.
Mathieu Cheminot est pourtant habitué des manifestations.
Sur Grenoble, c'est la première fois que je vois autant de monde et c'est très encourageant. Il faut espérer que ça continue maintenant, hein, et qu'on arrive à obtenir quelque chose.
Dans le cortège, enseignants, postiers, étudiants, ils étaient là pour la même chose. Sur les pancartes, retraite à point, c'est non. Olivier est infirmier anesthésiste à Voiron.
On considère que la réforme des retraites, c'est quasiment un changement de société, puisqu'en fait, avant, il y avait une espèce de solidarité, puisqu'on cotisait selon ses moyens et on utilisait la santé, l'école, les services publics selon ses besoins. Et là, on le voit, c'est clairement l'individualisation, privatisation de la santé et notamment de la retraite.
Retraite ! Retraite !
Et pour se faire entendre, d'après Diana, interne en médecine, cette journée ne doit être qu'un début.
Je pense qu'il faut un mouvement croissant, qu'aujourd'hui, là, l'hôpital commence à se mobiliser. On va durcir le mouvement pour vraiment montrer que là, ça devient critique et qu'il faut se battre pour cette structure.
La manifestation s'est achevée à 12h30 au parc Paul Mistral autour d'un barbecue.
Un moment convivial, le barbecue, sur lequel on reviendra dans notre long format en fin d'émission. Chez les manifestants, beaucoup espèrent revivre les grandes grèves de décembre 95. C'est le cas de Serge Benito. Il est postier, membre du Parti communiste, syndiqué à la CGT. Et pour lui, cette journée, ce n'est qu'un début.
On aimerait toujours que ça soit plus fort, c'est sûr, mais je pense quand même qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde dans les rues, et notamment autant de jeunes. Et je pense qu'il y a une amorce d'agrégation des luttes. Les conditions sont créées pour revivre ce qu'on a vécu en 95 et peut-être même plus. Depuis 95, la situation sociale s'est aggravée parce qu'il y a de plus en plus de précarité, des attaques contre les conquis sociaux. Quand on sait que selon certaines simulations, les salariés, les enseignants vont perdre 500 à 600 euros, c'est plus possible. On ne peut pas avoir dans cette société des anciens qu'on demande de travailler plus longtemps et des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. C'est complètement inadmissible.
Et le mouvement de grève qui est parti pour durer, du côté des trains, ça coince toujours. Le trafic SNCF est encore très perturbé, à peine un TGV sur 10 et seulement 30% du trafic assuré du côté des TER. Benoît Almeraz, bonjour.
Oui, bonjour Paul.
Vous m'entendez, vous êtes à la gare de Grenoble à quelques heures des départs en week-end. Comment est l'ambiance sur place?
Bah, c'est assez simple, Paul. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi, mais le hall de la gare, il sonne plutôt creux pour un vendredi après-midi. Pas très surprenant puisqu'il n'y a aucun train qui circule vers Lyon ou Gap. Et le trafic est très limité vers Chambéry ou Valence. En fait, il faut dire que 9 conducteurs de train sur 10 sont en grève aujourd'hui. Il y a très peu de monde donc, et chez les commerçants, on se tourne un peu les pouces, comme Fanny qui vient juste de fermer son fast-food.
C'était très 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 calme, beaucoup plus que d'habitude. Déjà, on n'a pas ouvert aux mêmes horaires que d'habitude. On devrait ouvrir de 6h à 19h30, on a ouvert de 8h à 16h. Et au lieu d'être 8 présents sur le lieu de travail, bon, on était 3.
Ça va, vous n'êtes pas trop ennuyé ?
Si, c'était très long. Non, la gare est vide, c'est impressionnant pour un vendredi, surtout avec la saison qui a repris, le ski et tout ça, là, il n'y a personne. Ouais, donc c'était très long.
Alors pour trouver les passagers, en fait, il faut aller à la gare routière, à une centaine de mètres de là où je suis. Alors il y a des bus de substitution qui ont été mis en place vers Valence notamment. Et en parlant de bus, depuis tout à l'heure, je vois des employés d'une compagnie de bus privée. Ils distribuent des flyers promotionnels pour des clients potentiels. Comme quoi, la grève, c'est aussi une opportunité économique pour eux.
Merci Benoît Almeras en direct de la gare de Grenoble. Et il est possible en effet que les voyageurs soient obligés de se déplacer en bus dans les prochains jours. On devrait en savoir plus sur les prévisions du trafic de la SNCF en fin d'après-midi.
Uber reconnaît avoir enregistré 6000 viols et agressions sexuelles en 2 ans aux États-Unis.
Oui, ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. Après plusieurs années à refuser de communiquer sur ce problème, le géant américain des services de location de voitures a finalement révélé hier dans un rapport l'existence de ces agressions sexuelles et de ces viols. Le directeur juridique de Uber a réagi. Il a déclaré « La plateforme reflète le monde dans lequel nous opérons avec ses bons et ses mauvais aspects. » En France, un hashtag a été lancé sur Twitter « Uber c'est over, Uber c'est fini ». Le Téléthon 2019, ça commence ce soir. C'est la 33e édition de ce grand marathon caritatif. Le parrain cette année, c'est l'acteur Jean-Paul Rouve. L'émission sera diffusée en direct pendant 30 heures d'affilée sur France 2 et sur France 3. En 2018, la collecte finale s'était élevée à 85,8 millions d'euros, un chiffre que les organisateurs de l'événement espèrent dépasser. Pour faire vos dons, le numéro reste le même, 36 37. Et on reviendra plus longuement sur ce Téléthon dans le dossier de la semaine avec notre invité en studio.
François Bayrou était tout à l'heure entendu par les juges au tribunal de Paris.
Le président du Modem a été convoqué en vue de sa mise en examen dans l'affaire des assistants d'eurodéputés de son parti, une audition qui pourrait lui valoir une inculpation. La semaine dernière, François Bayrou avait relativisé sur ses poursuites. Il a déclaré « Tout le monde est mis en examen ou à peu près dans la vie politique française ». Les Grenoblois changent-ils leurs habitudes pour le climat? Alors que la COP25, la conférence sur le climat, a commencé lundi à Madrid, les citoyens se mobilisent de plus en plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Tri sélectif, acheter local ou tout simplement réduire sa consommation. Adrien Beaujean est allé à la rencontre de ces gens qui ont eu un déclic.
Anne, 58 ans, entre dans un magasin bio grenoblois avec son vieux cabas à roulettes, direction le rayon fruits. Elle hésite, soupèse plusieurs clémentines, regarde les étiquettes. Il y a quelques années, elle a radicalement changé sa façon de consommer.
Je mets plus les pieds dans les supermarchés. Il y a 15 ans, j'ai lu un canard enchaîné sur justement l'alimentation et tout ce qu'on avalait. Et ça m'a fait le déclic.
La prise de conscience écologique chez Isabelle, 72 ans, c'est le discours de son mari qui l'a déclenché.
Je vis avec un trieur fou. Donc on trie depuis très très longtemps, on met tous nos déchets là où il faut, enfin, on est des bons exemples.
Depuis mars dernier, la métropole grenobloise distribue des composteurs pour que les habitants puissent recycler leurs déchets alimentaires. Safia, 26 ans, a sauté sur l'occasion pour se lancer dans l'aventure.
On a eu l'énorme chance, nous, dans notre bâtiment, d'avoir un compost. Je suis passée maintenant au tri des poubelles.
Mais ce n'est qu'un début, elle prend le problème à la source et achète différemment.
J'ai changé mon mode de consommation, donc ça passe aussi par les emballages. J'essaie d'acheter le moins de plastique possible. Et j'utilise des pots en verre, des sacs en tissu réutilisables.
En juillet dernier, le gouvernement s'est lancé dans une course écologique ambitieuse, recycler 100% des emballages plastiques d'ici 2025.
Et un Français, produit en moyenne 513 kilos de déchets ménagers par an. La Coupe du Monde pour les Françaises en handball, c'est terminé. Les Bleus se sont fait sortir dès le premier tour après leur défaite contre le Danemark. Une terrible désillusion pour les championnes du monde et championnes d'Europe en titre. Les Françaises restent néanmoins qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
Merci Paul, on vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité jusqu'à 17h.
16h39 sur Radio Campus Grenoble. On se retrouve dans quelques minutes pour le dossier de Julia Beaufils avec son invité sur le Téléthon. Mais avant ça, un peu de musique.
Two hearts, one valve.
pumping the blood. We were the flood, we were the body and two lives, one life, sticking it out, letting you down, making it right. Seasons, they will change, life will make you grow, change will make you cry, cry, cry. Everything is temporary, everything will slide, love will never die, die, die. I know that you birds fly in different directions. Ooh, I hope to see you again. Sunsets, sunrises, living the dream, watching the leaves, changing the seasons. Some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons, they will change, life will make you grow, death can make you hard, hard, hard. Everything is temporary, everything will slide, love will never die, die, die. I know that ooh, birds fly in different directions. Ooh, I hope to see you again.
C'était Birds d'Imagine Dragons, il est 16h43, vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble, on est ensemble jusqu'à 17h.
Le dossier.
Le Téléthon a débuté ce matin, l'objectif récolter des dons pour aider à améliorer la recherche sur des maladies rares. Bonjour Julia Beaufis.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
L'année dernière, à la même période, le Téléthon a permis de récolter près de 86 millions d'euros.
Effectivement, alors où va cet argent? Quel est l'état de la recherche et pourquoi est-il toujours aussi important de donner? Autant de questions que l'on veut poser à notre invité aujourd'hui. Thomas Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant en sciences humaines appliquées à Grenoble, mais si vous êtes avec nous en studio aujourd'hui, c'est en qualité de bénévole pour l'Association française contre les myopathies, l'association organisatrice du Téléthon. Alors bah, Laurent, première question, pourquoi vous êtes-vous engagé auprès d'AFM Téléthon?
Je crois que je me suis engagé auprès de l'AFM parce que d'abord c'est l'association qui cherche justement à apporter une solution aux personnes qui sont comme moi atteintes par des maladies rares. Donc moi je suis personnellement atteint d'une myopathie de Duchenne qui est donc une maladie neuromusculaire. Et je crois que je me suis aussi investi dans cette association de manière un peu progressive, puisque c'est d'abord en 2008 que j'ai été un ambassadeur national du Téléthon, donc sur le plateau télé et sur les affiches, voilà. Et pour moi, ça a été une super expérience de pouvoir justement représenter toutes ces personnes malades et faire partie de cet événement qui était le Téléthon. Et puis je crois qu'il y a aussi que j'ai toujours trouvé ça assez impressionnant qu'il y ait des gens qui sont pas du tout concernés par ce problème-là et qui pourtant font des tas de choses tous les ans pour le Téléthon, pour récolter des fonds. Et je me suis dit que moi aussi je devais en faire partie, voilà.
Alors bah, du coup vous nous disiez que vous étiez atteint d'une myopathie, la myopathie de Duchenne. Vous expliquez que c'était une maladie neuromusculaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, nous expliquer les symptômes de cette pathologie?
Oui, donc du coup c'est une pathologie qui atteint tous les muscles du corps et qui provoque une dégradation progressive de tous les muscles liée donc à l'absence d'une protéine qui s'appelle la dystrophine, qui normalement protège les muscles. Et donc c'est suite à une anomalie génétique qu'il y a une absence de dystrophine dans mon corps. Et voilà, et donc c'est une maladie qui est évolutive et dont on ne connaît pas tout à fait... en tout cas, on ne sait pas à quelle vitesse elle peut évoluer, quoi.
Très bien. Alors, merci de votre témoignage déjà. Avant de continuer, Thomas, je vous propose d'écouter un petit zapping.
81 065 239 euros.
Merci.
80 319 113 euros. C'est ce compteur qui est plus élevé que celui de l'année dernière. Le compteur final est à 75 616 180 euros.
La collecte du Téléthon 2018 se monte à 85 844 117 euros. Merci.
Donc comme on l'a entendu, plus de 80 000 euros quasiment chaque année. Excusez-moi bien sûr. Et en fait, première question, à quoi sert tout cet argent?
Eh bien, cet argent, il sert à deux missions principales de l'AFM Téléthon. La première, la plus importante, en tout cas celle qu'on voit le plus, c'est peut-être la mission guérir, c'est-à-dire faire en sorte de trouver des traitements pour toutes ces maladies rares, ces maladies qui touchent très peu de personnes et qui souvent sont aussi donc des maladies orphelines sans traitement.
Quels sont peut-être un exemple de ces autres pathologies qui sont concernées?
Il y a plusieurs milliers de pathologies qui rentrent dans le cadre des maladies rares et notamment des maladies génétiques, parce que c'est surtout celles-ci dont se préoccupe le Téléthon. C'est des maladies qui atteignent les muscles, la vision, le sang, la peau, le cerveau. Et toutes ces maladies-là, elles nécessitent des recherches assez importantes et des recherches qui concernent des fois un nombre très faible de personnes. C'est aussi pour ça que sans le Téléthon, elles ne seraient jamais faites, ces recherches-là, parce qu'elles n'intéressent pas les labos pharmaceutiques, faute de rapporter de l'argent une fois que les traitements sont développés. Et les pouvoirs publics, malheureusement, n'investissent pas non plus l'argent qu'il faudrait pour pouvoir avancer dans la recherche sur ces pathologies-là. Mmh. Voilà. Et donc après, sur la deuxième mission, qui est celle donc, d'aider, c'est surtout, en fait, l'AFM Téléthon, elle emploie plus de 173 travailleurs sociaux, qu'on appelle donc des référents de parcours santé, qui sont là pour accompagner les personnes malades aux différents rendez-vous médicaux, mais aussi les accompagner dans les démarches administratives qui sont nécessaires pour avoir des aides, par exemple pour acheter un fauteuil électrique ou pour toutes ces choses-là.
Et j'ai cru comprendre, voilà, que justement le statut de référent parcours santé avait été en fait l'aboutissement de plein d'actions de l'association AFM Téléthon.
Oui, effectivement, c'est un peu l'aboutissement justement de cette volonté d'aider les familles. Et c'est un métier qui a été créé de toutes pièces par l'imagination dont a fait preuve l'AFM Téléthon au cours de ces années d'existence. Voilà.
Très bien. Alors bon, bah, du coup, le premier Téléthon, c'était en 1987. 87. Exact. Donc, c'était un concept, en fait, qui avait été importé des États-Unis.
Tout à fait.
L'objectif était de récolter un maximum en un seul week-end. Et l'outil majeur utilisé, c'est en fait l'antenne. Donc, ce week-end, il y a plus de 30 heures d'émissions qui sont prévues sur France Télévisions, toutes chaînes confondues. Bah, pourquoi la télé publique est-elle encore aujourd'hui l'allié, le meilleur allié du Téléthon?
Bah, je crois que c'est le meilleur allié du Téléthon parce que justement elle a cette capacité de diffuser largement cette émission et je crois qu'on peut être on peut que remercier France Télévisions de renouveler ce partenariat avec l'AFM parce que je pense que sans ça le Téléthon n'aurait pas l'importance qu'il peut avoir aujourd'hui. Mais voilà, et donc je pense que c'est pour ça que c'est très important.
Alors, je vous propose maintenant d'écouter un autre zapping. Et cette fois, ce sont les parrains des éditions précédentes.
On peut être vecteur d'émotion, essayer de respecter cette émotion. Et surtout, l'émotion du Téléthon, évidemment, on passe par beaucoup de choses qui sont bouleversantes, des témoignages qui sont assez poignants, mais c'est aussi une fête.
Le Téléthon, c'est la France, toute cette société française qui est magnifique, et c'est le plus beau visage de la France.
Je suis fier de partager votre combat, de participer à cette mobilisation de tous. Alors à très vite, pour vivre avec vous cette fête de la solidarité.
Vous imaginez si tout le monde, par exemple, on se dit, tiens, allez, on donne 1 euro. Ben, on aurait déjà entre 65 et 70 millions d'euros.
Donc là, on a entendu Zazie, Marraine en 2017, Marc Lavoine en 2015, Pascal Obispo pour l'édition de l'année dernière. Cette année, c'est Jean-Paul Rouve, le parrain. Donc bah, en quoi, encore une fois, c'est important de parrainer ces éditions par une personnalité?
Bah, je pense que ça rend sûrement plus visible l'événement qu'est le Téléthon. Et puis, je crois que là-dessus aussi, on peut remercier toutes ces personnalités qui mettent leur image à la disposition finalement du Téléthon et qui très souvent ont l'air de vraiment s'investir dans cette mission.
Et ils parlent, on entend d'ailleurs Zazie et Marc Lavoine qui parlent d'une fête. Ils disent que voilà, c'est un moment pour récolter de l'argent, mais c'est aussi une fête. Et Marc Lavoine dit une fête de la solidarité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bah, effectivement, c'est une fête de la solidarité. Et moi, quand j'étais petit, je disais que le Téléthon, c'était le Noël des myopathes. Et en référence à ma maladie musculaire, enfin en tout cas le Noël voilà, de tous les malades concernés par ces maladies-là, parce que je crois qu'effectivement, et c'est ça qui est aussi important, c'est ce moment de fête qui est à la fois sur le plateau télé et partout en France, sur le terrain, là où les gens organisent des collectes, voilà.
Du coup, on revient à la collecte. À la fin du week-end de l'année dernière, les dons, les promesses de dons n'atteignaient que 69 millions. Donc, c'était quasiment 20 millions de moins que les autres années. Donc, après le week-end, les dons ont quand même augmenté. Mais malgré tout, l'année dernière, on expliquait cette baisse de dons par le facteur gilet jaune. Cette année, le Téléthon coïncide avec le début du mouvement contre la réforme des retraites. Est-ce qu'on apprend du côté de l'AFM?
Oui, alors je pense qu'il y a une certaine appréhension par rapport à une éventuelle baisse, même si on sait que les Français ils sont toujours au rendez-vous pour donner, et que ces dernières années il y a aussi eu des événements, la mort de Johnny il y a 2 ans, l'année dernière les Gilets jaunes, et que pourtant la collecte, même si elle diminue un peu, elle reste très importante. Et puis je pense qu'il ne faut pas non plus minimiser le fait qu'il y a aussi une baisse du pouvoir d'achat d'un certain nombre de personnes qui donc ont moins les moyens de donner aussi, quoi.
Alors, parlons programmation. Qu'est-ce qui est prévu dans le coin ce week-end, en Isère ou particulièrement à Grenoble?
Sur Grenoble, donc demain matin, il y a l'Office municipal des sports de Grenoble qui organise une course de 5 km dans le parc Paul Mistral. Voilà. Il y a aussi des étudiants qui vont organiser des choses, mais notamment l'association des étudiants en médecine de Grenoble qui va vendre des objets Téléthon donc sur le marché de Noël. Et puis après, c'est plutôt pour les étudiants des animations en interne, à l'intérieur des écoles elles-mêmes. Et puis sur le reste du département, il y a aussi des animations assez importantes. Par exemple, sur le plateau du Vercors à Villard-de-Lans, il y a une une famille donc, dont un des enfants est atteint de myopathie qui organise un concert parce que même ils ont un groupe de rock. Voilà. Après, il y a aussi des animations qui sont assez connues, enfin, en tout cas qui reprennent tous les ans un peu. C'est Tulin notamment qui, cette année par exemple, ils ont réalisé une voiture en chocolat avec 400 kilos de chocolat, je crois. Et donc, tous les ans, ils se fixent un peu des défis un peu fous comme ça. Voilà.
Donc, une programmation, du coup, très riche dans la région. Est-ce qu'on peut encore devenir bénévole, là, pour ce week-end ?
Enfin, là, ça commence à être un peu tard pour organiser quelque chose. Mais en tout cas, je pense que oui, il n'est jamais trop tard pour aider le Téléthon. Et voilà.
Merci Thomas Laurent. Alors je le rappelle, vous êtes étudiant en deuxième année de sciences humaines appliquées à Grenoble, mais aussi bénévole pour l'Association française contre les myopathies. On l'aura compris, les dons du Téléthon ont deux objectifs, trouver des traitements pour soigner les maladies rares et génétiques, mais aussi aider les personnes malades et leurs accompagnants. Ce sont eux justement qui les accompagnent aux différents rendez-vous médicaux ou les aident pour les différentes démarches administratives. Je le rappelle, pour faire un don au Téléthon, c'est possible par téléphone au 36 37 ou directement en ligne sur Internet. Il est 16h55 sur Radio Campus Grenoble et c'est l'heure du long format.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Que se passe-t-il à la fin d'une manifestation ? Après 2h30 à défiler dans les rues de Grenoble, les militants se sont rassemblés au parc Paul Mistral. Un moment de convivialité et de discussion. Claire Guédon, vous avez rencontré ces manifestants. Ils sont restés alors que le cortège avait fini de marcher.
Il est midi et demi, l'anneau de vitesse de Grenoble se remplit de militants. Ils sont plus de 1000, des gilets jaunes, des syndicalistes, mais aussi des parents et des adolescents. Tout le monde se mélange, discute et se bouscule autour des stands de la CGT et de Force Ouvrière, mais toujours le sourire aux lèvres, comme Youssef qui mange son sandwich.
Il y a des merguez, il y a de la boisson, c'est convivial. On mange tous ensemble, voilà, on partage des idées, on fait le point de la manif, nos réactions, tout ça, tout ce qu'on a vécu, quoi.
La discussion se fait autour du barbecue qui tourne à plein régime. L'odeur d'huile imprègne les vêtements des militants, la fumée brûle les yeux, mais ça n'arrête pas Nicolas.
Ben, on reste pour partager des moments fraternels, déjà. Déjà pour se revoir aussi, puisqu'on n'est pas tous issus du même métier et de la même profession, donc ça permet de partager aussi des choses.
Il travaille dans la métallurgie, mais cet après-midi, il échange avec des cheminots et des énergéticiens, ce qu'il n'aurait pas pu faire dans le cortège.
Parce que pendant la manifestation, on marche et on est souvent dans notre camp de métier. Donc là, ça permet aussi d'interprofessionnaliser les luttes et les choses.
Gobelet à la main, Marie-Laurence parle avec ses amis qu'elle a retrouvés dans la foule. Elle reste après la marche pour prolonger la solidarité entre manifestants.
On est là dans un esprit de convivialité, de bonne humeur, de chaleur humaine. On partage plein de choses et ces temps-là, ils sont précieux. Il n'y a pas que le cortège, il y a l'après aussi. Et c'est important parce qu'on discute, on resserre les liens, on se tient chaud.
Il fait à peine 10 degrés, les militants ont sorti les gants et les écharpes. Pour se réchauffer, ils sont aussi passés par le stand d'Elvire. Depuis des années, elle vend
des soupes chaudes, du vin chaud. Ça a été très très apprécié et c'est parti à une vitesse incroyable. On n'a même pas eu le temps, nous, de goûter quoi que ce soit.
De quoi reprendre des forces pour continuer la mobilisation. Pendant que certains finissent leur sandwich, des assemblées générales se forment. Chez les professeurs, on pense aux prochaines actions. Olivier travaille au lycée de Vizille.
Il faut qu'on prévoie les jours prochains. Les rassemblements, les grèves, la reconductible. Il faut ensuite qu'on transmette ce qu'on va apprendre là, ce qu'on va décider là, dans nos établissements respectifs, pour mobiliser les collègues et continuer le mouvement pour en finir avec ce projet qu'on juge injuste, inégalitaire. Alors que nous, quand on est en grève, on ne va pas à la pêche à la ligne ou jouer à la pétanque. On se retrouve, on travaille en fait, on travaille pour prévoir la suite, pour être plus fort, plus soudé et plus efficace.
Il est maintenant 14h30, la foule se calme et les discussions se font plus sérieuses. Les organisateurs rangent les restes de boissons et de merguez dans leur camion.
Et aujourd'hui, dans toute la France et pour tous les secteurs, des assemblées générales se poursuivent. 16h58 sur Radio Campus Grenoble et c'est maintenant le rappel des titres avec vous, Paul Tillier.
Le Premier ministre Édouard Philippe présentera le projet de la réforme des retraites mercredi prochain. Ce sera le 11 décembre. Il a aussi annoncé qu'à la RATP et à la SNCF, seuls les nouveaux entrants seraient concernés par cette réforme des retraites. La grève qui se prolonge dans les transports ce week-end, ce sera toujours très compliqué de circuler en France. La SNCF annonce un TGV sur 6 et un intercité sur 10. La société Uber reconnaît avoir enregistré 6000 viols et agressions sexuelles en 2 ans aux États-Unis. Un hashtag a été lancé sur Twitter, Uber, c'est over. Et la 33e édition du Téléthon commence ce soir. soir et durera jusqu'à demain. 30 heures de direct à la télévision pour faire vos dons. Toujours le même numéro, 36 37.
Merci Paul. Il est presque 17h sur Radio Campus Grenoble. C'est déjà l'heure de nous quitter. Merci à toute la rédaction et à Louis Oscovin qui était à la technique aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble ou sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Microcité. Et d'ici là, portez-vous bien.